bienvenue dans l'émission Osons les difficultés. Bonjour à toutes et à tous. On est dans l'émission où on parle audace et résilience sans aucun tabou. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorian Solaire et ma mission est d'accompagner les gens et les entreprises à oser faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Côté invité, je reçois aujourd'hui Thibaut Taroux qui va nous parler d'un sujet que j'ai pas forcément encore abordé dans cette émission. On va parler du corps relié à l'esprit d'ailleurs. Thibaut, comment vas-tu ?
Salut Dorian, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Bah écoute, ça va très bien.
Bah écoute, super content de te recevoir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes pour que les gens sachent qui tu es ?
Ok, 30 secondes. Alors je suis donc Thibaut Taroux, je suis kinésithérapeute du sport depuis maintenant plus de 10 ans. Je suis également préparateur physique, notamment en course à pied, et père de famille.
Cool. Top, j'adore, synthétique. Alors, on est dans l'émission Osons les difficultés et il y a une question qui ouvre chaque émission, c'est la suivante. C'est de te demander quelle a été la difficulté qui t'a le plus marqué émotionnellement parlant que tu as eu à traverser dans ta vie.
Oh, c'est une question vaste. Je pense que la première chose qui m'est vraiment arrivée, qui m'a vraiment mis dans cette situation-là, c'était ma première rupture sentimentale. Le premier amour.
Ok. Énorme. Est-ce que tu peux développer, parce que là, c'est un sujet qu'on vit tous, que peu de gens osent aborder, mais que tu abordes. Alors vas-y, si tu peux développer, qu'est-ce que tu as vécu à travers cette rupture, que ce soit émotionnellement ou dans tes pensées, dans tes actions, qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, du coup, j'étais très jeune, donc investi à fond dans la relation. J'ai imaginé tellement de choses, tellement d'avenir, et au final, c'était un petit peu un feu de paille et du coup, tout s'est arrêté quasiment du jour au lendemain pour des raisons de jeunes adultes. Et du coup, tout mon monde s'est effondré. Donc tout ce que j'avais pensé, construit, je m'étais isolé de mes amis, de ma famille. J'étais vraiment centré dans mon petit cocon amoureux et tout s'arrête du jour au lendemain.
Énorme. Alors, merci de ramener ce sujet parce que personne n'ose parler de ces choses-là. Quand tu dis tu t'es isolé, comment ça se matérialise ? À quel moment de la relation ça se matérialise ? Parce que ce que tu es en train de nous raconter, on peut tous le vivre à n'importe quel moment de nos vies. Moi, je le vois au quotidien dans mon entourage. Comment ça se matérialise ?
C'est assez insidieux hein, parce qu'au final, au début, tu as la rencontre, tu as ton groupe d'amis, ta vie sociale, ta vie familiale et tu as cette personne qui rentre dans ta vie. Et au fur et à mesure, tu as peur que finalement que la situation t'échappe et tu essaies d'avoir le contrôle sur tout. Et pour tout contrôler au fur et à mesure, sans t'en rendre compte, mais tu commences à t'isoler et à isoler la situation pour au final, après te retrouver vraiment qu'à deux et voir, tu t'es dépendant que toi-même. Et c'est là le piège.
Et à quel moment tu te rends compte que t'es en train de justement t'isoler et que ce qui au départ est censé être quelque chose de positif se transforme en quelque chose qui ne l'est plus forcément.
Alors en fait, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte quand il y a eu la séparation, que tout mon monde s'est effondré et que là, je me suis dit waouh, d'accord, maintenant je suis seul.
Et comment ça se matérialise ? Comment ça se matérialise ? En fait, si tu peux donner un peu plus de contexte au niveau de la durée, comment t'en arrives là selon toi ?
Alors la durée, ça a duré à peu près un an et demi, mais le ressenti 10 ans. En fait, tu avances tout, les premières vacances, après tu t'habites ensemble, tout va très vite, trop vite. Tu vis que pour cette personne-là, tu vis que en pensant à cette personne-là et tu as l'impression que c'est réciproque. Et puis au fur et à mesure, le temps s'installant, il y a des choses, des signes que tu ne vois pas parce que tu es complètement aveuglé par tout ça. Et du coup, ça s'est fini, c'était un truc assez, assez compliqué. Ça se finit dans une soirée où il y a... que je décide de refaire, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait, où il y a pas mal de potes et de gens, et cette soirée, on consomme pas mal d'alcool et tout ça, donc du coup, moi je me retrouve à m'endormir sur le canapé, et à mon réveil, je vois cette personne en train d'embrasser un autre garçon. Et du coup, c'est assez brutal comme ça, c'est l'image que j'ai, donc on t'imagine un peu après comment ça a pu finir, donc on rentre chacun de son côté, et puis vient la discussion le lendemain, où après tu découvres d'autres choses, et au final... tu t'aperçois que tout le temps que tu avais dédié, investi à corps et âme, ça a servi à rien. Donc c'est ce que tu dis sur le moment.
Et là, du coup, c'est une chute libre.
Ah, c'est même pas une chute libre, hein. Tu prends un TGV en pleine face.
Et qu'est-ce que tu ressens émotionnellement ? C'est quoi l'émotion ?
Ah, la première émotion, c'est la colère, la rage. Pas contre la personne forcément, contre moi, en me disant, voilà, t'as tout mis tes œufs dans le même panier, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Mon monde s'est écroulé, hein, vraiment, j'avais envie d'arrêter les études, j'avais plus d'appétit, j'avais pas envie de rentrer chez moi. Enfin, voilà,
tu te sens vide.
Tu te sens vide, vraiment vide, ouais.
Et là, du coup, c'est marrant parce que, du coup, dans ta présentation, tu dis aujourd'hui, t'es père de famille.
Ouais.
Et donc, je pense que cette... Bon, on apprend tous de nos expériences passées, surtout amoureuses. Aujourd'hui, c'est quoi justement le bon équilibre?
Le bon équilibre, en fait, c'est de pas faire être à deux, c'est d'être un plus un, et avec les enfants, un plus un, plus un, plus un, plus un. Il faut que chacun ait sa place dans la vie amoureuse, la vie de famille, mais jamais sans s'oublier complètement. Bien sûr, hein, t'as des sacrifices qu'il faut faire. Moi, j'appelle pas ces sacrifices, hein, il y a des obligations amoureuses et familiales qui doivent être.
Oui, mais qui des fois sont...
Mais qui sont nécessaires et ouais. Qui sont bien. Et puis après, il faut savoir s'accorder du temps pour soi, pour sa vie sociale, sportive, tous les domaines.
Parce que c'est ça qui est, moi, qui m'inspire beaucoup, parce qu'on se connaît en dehors, du coup. Et c'est trouver cet équilibre, parce qu'aujourd'hui, donc, du coup, t'as un cabinet de kiné,
oui.
Donc, qui est à toi. Tu es donc kinésithérapeute, tu es... du coup, coach en course à pied, donc tu gères plusieurs choses. Donc, t'es papa de deux petites filles.
C'est ça.
Et justement, est-ce que parfois c'est dur?
Ah bah oui, là, c'est dur de tout concilier. En fait, moi, je réfléchis beaucoup en curseur dans la vie. C'est comme si j'avais quatre curseurs. Donc, t'as la famille, le travail, le sport et la vie sociale. Et je pense que dans la vie, tu peux pas avoir tout le temps les curseurs en haut, tous en même temps. Donc bon, forcément, moi, la famille reste toujours le curseur le plus haut. Le travail, ben, par obligation, et ensuite, après, ben, je module le reste. Mais il y a de temps en temps où j'arrive à baisser un peu les curseurs travail et famille pour lever le curseur à fond sport ou social pour prendre un temps pour moi.
Ouais, du coup, c'est ça que t'appelles aussi le temps pour toi,
voilà,
que tu disais tout à l'heure. Alors, je fais le parallèle, du coup, parce qu'on parle de résilience, là, émotionnelle. Voilà, c'est dur de se relever d'une séparation. Je trouve que humainement, c'est, enfin, les chocs humains comme ça, quand tu perds quelqu'un, c'est toujours difficile. Enfin, c'est un vrai deuil. Mais toi, ton métier au quotidien, aujourd'hui, c'est de soigner les gens sur la partie physique. Alors déjà, quel parallèle tu fais entre la résilience peut-être émotionnelle et la résilience physique?
Après, tout dépend du patient, mais bon, nous, on a la chance de s'occuper de patients sportifs avec des objectifs, et un sportif, hein, tu le sais bien, c'est, si tu enlèves le sport, ben, c'est une sorte de deuil pour lui. Même si c'est 2-3 semaines, pendant 2-3 semaines, parce que son curseur sport est vraiment haut, et il se retrouve en fait désemparé. Et ce qui... Enfin, après, tu connais un petit peu, mais dans mon métier, je ne soigne pas qu'un genou ou une épaule, je soigne une personne, et dans cette personne, je prends toujours vraiment cette dimension émotionnelle quasiment au même niveau que le physique.
Et c'est ça qui me passionne dans ce que tu me racontes en dehors, parce que tu me dis souvent que toi, tu as une spécialité que tu kiffes accompagner, enfin, tu aimes accompagner, voilà, des gens, mais il y a des choses sur lesquelles tu te sens peut-être pas plus à l'aise, mais sur lesquelles tu kiffes, c'est les douleurs de dos notamment.
Oui, tout ce qui est douleurs chroniques, tout ce qui est affection rachidienne, voilà, c'est assez, enfin, c'est un champ qui est beaucoup mis, enfin, c'est assez récent, mais maintenant on en parle beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui ont mal au dos, hein, parce que c'est une zone qui centralise beaucoup la douleur, les émotions. Et parfois, juste en parlant, en rassurant, en mettant en fait un peu le patient devant son image, ça permet des fois, sans avoir fait aucune manip, de lui faire baisser énormément la douleur.
Et donc là, c'est incroyable, parce que c'est exactement là que j'allais te poser la question, parce qu'on en avait déjà parlé, c'est que en fait, il y a des gens qui ont des douleurs physiques depuis des semaines, enfin des jours, des semaines, voire des mois.
Voire des années.
Et sans les toucher, tu arrives à commencer à les soigner.
Voilà, après encore une fois, je te dis, ça dépend des patients.
Oui, bien sûr.
Quand tu arrives, il faut sentir le patient. Ça, ça s'apprend, et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'inné dans chaque personne. Et selon le patient que j'ai en face de moi, ben, soit je vais d'abord avoir une approche physique pour l'amener... Quoi qu'il en soit, après, avec du côté émotionnel, enfin, du côté psychique, on va dire. Et d'un autre côté, il y a des patients, en fait, je sais que si je les touche direct, après, c'est fini, parce qu'ils auront une dépendance à cette notion physique, avec des résultats qui seront forcément pas tout le temps bons.
Énorme. Et ce serait quoi pour toi, du coup, la résilience du point de vue purement physique? Par exemple, quelqu'un qui se blesse, t'as pris l'exemple d'un sportif, C'est quoi la résilience à ce moment-là? Parce que la résilience, dans la définition classique, c'est la capacité que l'on va avoir à surmonter une épreuve, une difficulté. Mais là, sur l'aspect purement physique, qu'est-ce que c'est?
Alors après, tout dépend de la blessure. Souvent, la première question que me pose un sportif, c'est quand il est blessé, quand est-ce que je peux retourner au sport? Quand est-ce que je peux retourner à la compétition?
Je confirme.
Voilà. Sauf qu'on sait maintenant que... Bah on voit certains footballeurs pros qui reviennent au bout de 6 mois d'un croisé et quelqu'un de lambda peut-être comme nous qui va mettre 1 an et demi, voire 2 ans à se remettre. Donc les délais, ce n'est pas des choses qu'on peut, sur lesquelles on s'appuie. C'est nous, on a des référentiels cliniques avec des étapes bien validées par la science. Et à chaque étape qui est validée, bah on s'approche un petit peu du retour. Donc quand on a cette question qui est posée, quand est-ce que je reprends? Donc il faut un peu... Voilà, moi, j'aime pas être trop catégorique. Donc je ne veux pas annoncer un délai parce que je ne veux pas non plus... lui donner faux espoirs, mais j'essaie toujours de mettre dans la balance, bon ben voilà, dès que tu auras passé cette étape, dès que tu seras capable de recourir, ben peut-être que dans 1 ou 2 mois, tu seras capable de retourner peut-être vers ton sport ou en début de sport. Voilà. Essaie de donner des étapes, mais sans donner vraiment de toi, noyer un petit peu le poisson dans l'eau.
Et du coup, la résilience en tant que telle, c'est quoi du coup? Donc c'est un processus en fait.
Ah, c'est un processus. Après, souvent, la blessure, elle intervient en cours de saison et en saison, bon, on va prendre le sport co parce que ça se parle peut-être plus à des gens, mais admettons un footeux, il se blesse en mi-saison. À la fin de la saison, il sait très bien qu'il n'aura pas joué, il va peut-être perdre sa place. Il ne pourra peut-être pas jouer à une compétition où il voulait être, quelque chose d'important. Et il y a tout ce processus-là qu'il faut mettre en place. Il faut que d'abord, il accepte sa situation, qu'il est blessé, qu'il va y avoir un délai de cicatrisation, qu'il y a ensuite un délai de retour au sport et que ça ne sera pas forcément compatible avec ce qu'il avait imaginé. Et que pendant qu'il est absent, la machine elle tombe toujours. Il y a son coach qui va peut-être se préférer quelqu'un d'autre. Il y a des joueurs qui vont se révéler. Et peut-être qu'à son retour, même s'il revient à 110%, il ne sera peut-être pas réintégré comme il était. Et ça, c'est un peu le stress, je pense, de pas mal de sportifs.
Et c'est là où je trouve fascinant le processus de résilience. Parce que du coup, dans l'imaginaire des gens, en tout cas, je pense qu'au départ, on se dit toujours que quand on a une blessure physique, il faut soigner le physique. Alors que fondamentalement... Le mental, comme tu le dis, il prend une place immense dans le processus de guérison. Et pourtant, je veux bien ton avis là-dessus. Alors, je vais être peut-être un peu cash sur l'aspect médecine, mais aujourd'hui, quand tu vas voir les études en médecine, on parle très peu de psychologie. Pourtant, l'humain est avant tout un être émotionnel. Et donc, c'est quoi ton avis là-dessus?
Alors... C'est vrai que la science, c'est quelque chose qui est un petit peu carré. Les études, même si ça change un petit peu hein, sur les dernières années, on commence à avoir, mais c'est un petit paragraphe dans un pavé 18 pages. Et force est de constater, hein, pour côtoyer pas mal de professionnels de santé, que c'est surtout ce que je disais tout à l'heure, hein, ils soignent plutôt un genou qu'une personne et ils n'ont pas idée de l'impact, ou du moins ils mettent de côté que peut avoir l'émotionnel sur une guérison. Quelqu'un qui est bien dans sa tête guérira mieux.
Alors, et c'est prouvé ça?
Alors c'est pas totalement prouvé, après il y a encore une fois au niveau des neurosciences, tout ça, ça évolue pas mal, tout ce qui est dans la douleur aussi, il y a pas mal d'études qui sortent à ce niveau-là, mais on en est au balbutiement. Moi je te parle de mon expérience clinique, hein, parce que ce temps-ci on parle beaucoup...
Mais c'est ça qui m'intéresse là aujourd'hui.
On parle beaucoup de science, mais bon après il y a la pratique. Moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que quelqu'un qui est pas bien dans sa tête, il sera pas bien dans son corps. Et quand tu reprends la vieille expression « un esprit sain dans un corps sain », voilà, ça date déjà depuis très très longtemps. Et pour moi, les deux sont indissociables. Et j'irais même peut-être à pousser un peu l'extrême, mais si t'es pas bien dans ta tête, tu seras pas bien, tu guériras pas de manière optimale.
Ouais. Enfin, même si tu fais tout ce qu'il faut.
Ce qu'il faut. Il y a parfois, tu fais des séances où t'es vraiment fier de ce que t'as proposé. Tu proposes des exercices ciblés, ton bilan clinique, il y a tout qui coordonne, et pourtant, t'as aucun résultat. Et d'autres moments, tu vas parler... Tu vas proposer un exercice un petit peu de manière presque bancale, hein, je ne devrais pas dire ça, mais et tu as des résultats incroyables et on te dit oui, t'es un génie, t'es un sauveur, machin. Alors que toi, il faut rester humble là-dessus, c'est que tu as juste su peut-être écouter à un moment donné, proposer un exercice qui a pu lui mettre confiance à ce moment-là et qui a permis de me mettre la machine en route.
Moi, je trouve ça passionnant parce que dans le coaching, on dit toujours, enfin c'est le premier truc que j'ai appris quand je me suis formé à ce métier-là, on m'a dit le résultat ne t'appartient pas. Quoi que tu fasses, tu peux être le meilleur guérisseur, enfin je dis guérisseur au sens large, parce qu'on peut soigner le corps, l'esprit, etc. Tu peux être le meilleur du monde si la personne en face n'a pas envie ou n'est pas disposée, tu ne feras rien.
Ah, ça, je suis d'accord.
Donc, c'est ouf. J'ai une dernière question avant de faire la pause musicale et de passer à la deuxième partie de cette émission. C'est sur la notion de douleur. Tu as abordé la notion de douleur et je trouve que c'est quelque chose qui est aussi bien palpable au niveau psychologique que physique, en tout cas dans le processus de guérison et de résilience. Parce que quand tu vis une épreuve, comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple une séparation amoureuse, un deuil, tu perds un objectif aussi professionnel, tu as la notion de douleur. Ça peut être psychologique, mais ça peut être aussi physique que quand tu te blesses en sport. Du coup, quelle différence tu fais entre la douleur et la souffrance ?
Alors pour moi, la douleur, c'est une interprétation que fait ton cortex suite à un événement. Par exemple, si tu te piques avec un cure-dent, ouais. Voilà, tu vas avoir une douleur qui va apparaître. Après, à toi de voir la douleur qu'il faut. Si tu te piques avec un cure-dent, que tu as une douleur énorme, qu'est-ce qui fait que ta douleur est énorme ? Par contre, si tu t'empales sur un pieu qu'on traverse la main et que tu n'as pas de mal aussi, bah, pourquoi tu n'as pas mal ?
Y a voilà. Un souci, ouais.
Donc la douleur, c'est vraiment une interprétation de ton cerveau. La souffrance, pour moi, c'est le vécu de la personne qui souffre qui va venir conditionner la forme de douleur que ça va prendre. C'est-à-dire que, admettons, tu as une enfance malheureuse, tu as eu des choses compliquées, il y a des événements qui vont ressurgir, donc de l'émotion, de la mémoire, tout ça, et qui vont venir te créer une douleur dans une douleur. Et ça, en fait, tu n'as pas les armes. Pour moi, quelqu'un qui souffre, c'est qu'il n'a pas les armes pour gérer sa douleur. Là, je t'ai fait l'exemple de la douleur avec le pic. Si tu es à peu près sensé, quand tu vois que tu te piques avec un cure-dent et que tu te piques avec un pieu, tu es quand même capable de voir qu'il y en a un qui est dangereux, un qui est moins dangereux.
Ouais.
Par contre, sur la souffrance, je ne pense pas que les gens soient capables de se sortir de cette espèce de...
D'engrenage
fatal, là. Et pour moi, c'est ça vraiment la différence. Et dans la souffrance, il y a la douleur, mais il n'y a pas que la douleur.
Ouais, et c'est ce qui peut expliquer certaines douleurs chroniques où les Bien gens sûr. Ont une perception de souffrance très haute.
Et quand même, les voies de la douleur, parce que ça, c'est scientifique, les voies de la douleur altérées. C'est-à-dire qu'à force de stimuler la voie de la douleur, le cerveau, ça demande beaucoup d'énergie pour lui, donc il a tendance à...
Aller là où il connaît.
À créer un raccourci, en fait.
Ouais.
Tu as une situation, bam, il t'envoie la douleur. Il ne cherche pas à avoir tous les sens d'intégration, le jugement, le raisonnement pour dire « Est-ce que ma douleur vaut vraiment ce que je suis en train de subir ?»
Et c'est exactement pareil en psychologie avec les émotions, et c'est le même principe pour la dépression, par exemple, où en fait, le cerveau est tellement abonné, entre guillemets, à l'émotion de la tristesse que même dans des situations qui ne le demandent pas, il va aller vers ça. Ouais, c'est ouf. En tout cas, merci beaucoup pour cette première partie d'émission. On arrive du coup sur la fin, on revient dans 3-4 minutes pour parler audace dans la deuxième partie. À tout de suite. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans cette seconde partie d'émission Osons les difficultés. C'est l'émission où on parle audace et résilience sans aucun tabou. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Taroux qui nous fait l'honneur de nous parler de la résilience sous un angle qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder, puisqu'on parle souvent de résilience au niveau psychologique, mental. Mais aujourd'hui, on l'aborde sous le niveau physique, puisqu'il est kinésithérapeute et coach en course à pied. Alors, bienvenue encore une fois dans cette deuxième partie d'émission. Dans cette deuxième partie, on va parler audace. Audace, dans cette première partie, je t'ai demandé, Thibaut, quel était l'événement qui t'avait le plus marqué émotionnellement, donc du point de vue de la résilience, donc comment tu t'en étais sorti. Là, je vais te demander quelle a été la chose la plus audacieuse que tu aies faite dans ta vie.
Alors, la chose la plus audacieuse que j'ai faite dans ma vie, c'est... En fait, avant d'être kiné, j'étais diplômé en manip radio. J'avais un job confortable, j'étais bien installé. Et je me suis cassé le poignet. Et du coup, j'ai été coupé pendant 2 mois du boulot. Et là, ça a fait dans ma tête un switch. Et j'ai décidé de tout plaquer, partir à Paris et reprendre mes études pour devenir kiné. Parce que c'était mon rêve et c'est ce que j'ai fait.
Énorme. T'as quel âge du coup à ce moment-là
si Et là, j'ai 25 ans quand je pars.
Ok. Et donc, à ce moment-là, c'est quoi ta situation? Donc, tu vis dans le sud?
Ah, je vis dans le sud, oui. J'ai un CDI, je vis dans le sud, je suis installé, j'ai un salaire assez confortable, j'ai une vie sociale épanouie, que je croyais. Et en fait, il n'y a rien qui me pousse à quitter. Et puis, quand je me casse le poignet, en fait, je me retrouve un petit peu seul chez moi à réfléchir et... Puis j'essaie de faire une rétrospective et voir sur l'avenir ce que ça peut donner. Et je me dis, en fait, je veux pas cette vie, je sens que je vais m'enfermer dans un truc qui n'est pas moi. Et donc, je décide de faire des lettres de motivation et j'envoie à toutes les écoles de France. Et puis, c'est à Paris que les signaux clignotent et du coup, je pars à Paris avec mes deux valises.
Énorme, trop cool. Et là, du coup, en plus, c'est marrant parce que je trouve que ça fait la passerelle avec la première partie d'émission sur la résilience. C'est à partir d'un truc désagréable, inconfortable, donc tu te pètes le poignet. Moi, je prends souvent cette anecdote en conférence, mais qu'à partir d'une blessure où je me suis mis à beaucoup réfléchir, parce que du coup, quand tu te fais ça, quand tu as ce genre d'événement, t'es chez toi. Et c'est dans ces moments-là que tu te mets à réfléchir à des choses plus existentielles, mais des choses qui sont essentielles pour la vie. Et donc là, du coup, tu prends la décision d'aller vivre à Paris. Comment ça se passe, du coup, cette école de kiné? Enfin, si tu peux nous raconter les études, combien de temps elles durent et la suite, qu'est-ce que c'est?
Alors, en fait, les études, c'était 3 ans à l'époque. Sauf qu'il faut savoir, c'est que je débarque à Paris, en fait, sans concours. Donc, je me dois trouver une école qui m'accepte pour faire un concours interne avant la fin de l'année scolaire. Et à l'issue de cette année, ils n'en prennent qu'un seul. Wow. Donc, en fait, je pars avec toutes mes économies. Parce que Paris, studio, 700 euros pour faire une petite image. Je crame quasiment toutes mes économies en même pas un an. Mes parents m'aident d'ailleurs pour ça et je les en remercie. Et je me retrouve seul avec peut-être à la fin obligé de rentrer et retourner à ma vie d'avant. Donc c'était quand même une belle roue de secours, hein, je vais pas cracher dessus. Et bon voilà, moi j'ai cette image quand j'arrive à la gare de Lyon avec mes deux valises. J'avais pas d'appart, j'avais juste trouvé une petite sous-loc pendant 2 semaines et un peu naïvement je pensais que j'allais arriver, que j'allais tout trouver et puis... Ça s'est pas totalement passé comme ça.
Et comment ça se passe justement dans les faits? Parce que là, du coup, tu arrives sur Paris, ta rentrée arrive.
J'arrive 3 jours avant la rentrée. Je prends place dans mon petit studio qu'on m'a sous-loué. Et puis je prends le temps, je vais visiter un petit peu, je vais voir où est l'école, tout ça. Et puis je me rends pas compte en fait que Paris, c'est une ville qui bouge beaucoup et que pour trouver un appartement, c'est juste une galère. Et du coup, je vais à la première visite d'appart un petit peu les mains dans les poches. Et quand j'arrive... toute la rue était... Il y avait une queue, en fait, pour rentrer dans l'appartement. Mais une queue qui durait une heure et demie.
Ah ouais.
Donc là, je commence à prendre conscience que finalement, ça va pas être si facile que ça. Et puis, malheureusement, je m'en rends vraiment compte. Je visite 30 appartements. Et même quand j'arrive à rentrer visiter l'appartement, en fait, les mecs, ils sont tellement prêts devant moi, qu'ils ont des dossiers prêts avec des trucs solides, que je me retrouve toujours éjecté. Et à un moment donné, j'ai de la chance, c'est que je visite un appart et j'entends des bruits de travaux dans la même résidence. Du coup, je vais voir les bruits de travaux et je vois un mec qui est en train de rénover un appart et je vais le voir un petit peu au culot et lui en demandant « Est-ce que c'est un appartement qui va être loué ?» Et il me dit « Oui ». Et je lui donne mon dossier, je dis « Mais voilà, tout est prêt ». Et là, il me fait « Non, mais on va le mettre ». J'ai dit « Oui, mais moi j'ai tout mon dossier qui est prêt ». Je dis « Je vous prends maintenant ». Et du coup, il m'a dit, bah, écoutez, c'est pas moi qui gère, rappelez-moi, enfin, mon boss va vous rappeler dans 48 heures et vous dire, ah, et il me rappelle, et c'est comme ça que j'ai eu l'appartement.
Énorme, donc c'est audace sur audace.
Audace sur
culot. Et,
alors que je suis pas du tout quelqu'un comme ça, moi je suis plutôt quelqu'un à l'époque qui était un peu timide, je prenais pas trop de risques, voilà, j'aimais bien que tout contrôler.
Et c'est ça qui est marrant avec l'audace, c'est que, tu vois, j'ai reçu quelqu'un dans cette émission il y a 15 jours qui me racontait un peu la même histoire, mais sur le travail. Où c'est en gros, il me disait, mais heureusement que quand on fait ces actions-là, on ne sait pas ce qui nous attend sur le chemin, parce que sinon, je ne sais pas si on serait si audacieux que ça, tu vois.
Non, bien sûr.
Et donc, c'est intéressant parce que je trouve que l'audace, encore une fois, j'aime le rappeler, c'est se dire que je tente quelque chose sans avoir toutes les réponses. En gros, genre, j'aime beaucoup ce que dit Mike Horn, qui est un aventurier, il dit, quand je pars en aventure, j'ai besoin de 20% des réponses, les 80% restants, je les trouverai sur le chemin. Et je trouve que c'est ça, l'audace.
C'est vrai, ouais.
Et donc, c'est cool. Donc là, tu passes 3 ans à Paris, un peu plus ?
Ah, je mets 3 ans d'études.
Ouais.
Après, là, je voulais, comme tout bon sudiste, rentrer chez moi. Et puis, au bout de 3 ans, je me suis dit, en fait, j'ai pas profité de Paris, donc je suis resté 10 ans en tout.
Ok, ah ouais, carrément. Ouais. Donc, tu restes 10 ans à Paris, tu commences ta vie de kiné là-bas.
Oui.
Et là, comment ça se passe ? C'est quoi les premiers... Est-ce que ça correspond vraiment à ce que tu voulais ? Est-ce que tu te découvres une voie à ce moment-là?
Alors déjà, pendant les études, oui, je m'aperçois que c'est vraiment ce que j'aime faire. Et les stages ne font que conforter ce que je pense. Et j'ai énormément de chance à ce moment-là parce que je prends un stage. Et bon, pour le coup, là, je fais pas vraiment preuve d'audace. Je prends le stage le plus proche de chez moi géographiquement. Et je tombe dans un cabinet qui est très cool et qui fait que la respiration, la kinésie respiratoire. Quelque chose qui n'est pas du tout ma spécialité, mais je devais faire un stage dans cette spécialité-là. Et je sympathise énormément avec mon tuteur à l'époque. Et à la fin du stage, il me dit, bah, écoute, Thibaut, quand tu seras diplômé, on cherche quelqu'un d'autre. Si tu veux venir, tu
avec
viens.
Avec plaisir. Ouais.
Et du coup, bah, voilà, je suis allé là, du coup, vers la simplicité. Je me suis retrouvé dans ce cabinet et j'ai bossé donc 6 ans là-bas où j'ai pu... alors, j'ai pas fait de la kiné respiratoire. Ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Et j'ai pu commencer à développer mes premières bases de kiné. Et maintenant, c'est devenu des amis. Hein.
Okay.
Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus.
Trop bien. Donc, et en fait, je continue parce que je trouve que ça fait le parallèle avec ta présentation aussi aujourd'hui. Donc, suite à ces 6 ans, donc, tu décides de rentrer dans le Sud.
Voilà.
Et là, en fait, tu vas t'orienter beaucoup plus sur de la kinésithérapie. Enfin, je pense que tu avais commencé, mais sur du sport.
Voilà. En fait, à Paris, je me trouvais un petit peu, parce qu'il y a peu d'espace, je me retrouvais un petit peu bloqué pour exprimer un petit peu cette spécialité sportive. Et du coup, je décide, bon, le Covid aidant et la naissance de ma première fille aussi. Et je décide de repartir du coup dans le Sud. Et ce qui m'a le plus... je m'en doutais un petit peu, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que je repartais à zéro encore une nouvelle fois. C'est-à-dire ouais. que je revenais chez moi, mais il s'est écoulé 10 ans. Et du coup, revenir d'un cabinet, recréer
une patientèle.
Une reconnaissance, parce que les gens à Paris venaient pour me voir et là je repars de zéro, je me retrouve jugé, je me retrouve avec les premiers patients qui sont pas venus pour me voir et avec des résultats des fois décevants.
Ouais, qui te testent. Et donc comment ça évolue du coup après dans...
Bon, après j'avais confiance en mes forces, donc du coup j'ai continué à faire ce que je faisais à Paris. Tu me connais un peu, je pense que j'ai un côté assez humain qui fait que j'ai plutôt un bon feeling avec les patients et puis ça s'est construit avec le temps, mais pour le coup, là-dessus, j'étais pas vraiment inquiet. Et après, bon, par contre, je me suis vraiment spécialisé dans le sport par mon collègue associé Hugo, là, qui m'a vraiment mis les deux pieds dedans et qui m'a permis de vraiment progresser à ce qui manquait pour atteindre le niveau que j'ai actuellement, qui est encore perfectible. Hein, mais...
Oui, mais de toute façon, toujours. Mais ce qui est chouette, c'est que du coup, là, aujourd'hui, vous, donc, votre cabinet, c'est vraiment spécialisé sur le sport parce que c'est vraiment un truc qui vous fait kiffer, vous, tous les deux, quoi.
Oui, c'est ça. Nous, c'est vraiment la prise en charge globale du sportif, de la blessure jusqu'à le retour de la compétition. Et c'est pour ça aussi qu'on fait de la prépa physique. Moi, j'aime bien avoir un patient de A à Z.
Ouais, et là, du coup, parce que nous, on s'est connus comme ça aussi sur cet angle-là. Donc, toi, tu fais du coaching, sportif, j'allais dire, mais course à pied. Et donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est d'accompagner des coureurs, des trailers qui veulent... aller vers un objectif, ouais. Passer un cap peut-être. Je sais pas si t'as un exemple concret.
Ben moi, ce que j'aime bien, oui, justement, c'est prendre plutôt des gens débutants ou qui ont une petite expérience pour les amener vers quelque chose qu'ils pensaient que c'était pas imaginable ou atteignable. Moi, c'est vraiment mon créneau. Je suis pas dans. Bon, si j'ai un sportif pro qui vient, bien sûr que je le prendrai, mais c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment amener quelqu'un là où il pensait pas pouvoir aller. Et je vais te prendre un exemple, hein. J'ai une patiente là qui a 60, presque 70 ans, qui voulait faire son premier marathon trail. Et je l'ai coachée pendant 3 mois. Elle avait des... Émotionnellement, c'est compliqué pour elle. Bon, elle m'a pas tout... J'ai pas voulu trop creuser parce qu'elle avait pas forcément envie d'en parler, mais j'ai senti qu'il y avait des gros blocages. Et j'ai réussi à construire un programme. Et là, bah, ce week-end, elle a fini son trail, elle a bien réussi en plus, et elle m'a envoyé un message, j'étais vraiment fier d'elle.
Oui,
quoi.
Parce que c'est ça en fait qui est magnifique, c'est qu'à travers le sport, en fait, tu as des gens qui réussissent, qui accomplissent même des objectifs de vie.
Oui, des objectifs forts.
Et tu te prouves des choses à toi-même à travers l'acte sportif. Non, trop chouette, trop chouette. En fait, tu aussi accompagnes les gens à être audacieux à travers le sport.
Exactement.
Audacieux et résilient. Cool. Bon, on glisse tout doucement sur la fin de cette émission et j'ai un rituel. C'est de poser 3 questions rapides à mes invités sur lesquelles il faut répondre le plus punchy possible. Alors, la première question que je vais te poser, c'est quelle est ta citation préférée?
Ma première citation préférée, hein.
Ta citation préférée, ou ça peut être une réplique de film, un truc que tu as lu dans un bouquin, un truc, une phrase qui t'a marqué.
Je suis pas vraiment fort là-dessus. Bon, ça va faire rire peut-être, mais ce que j'avais bien aimé, c'était dans le film Taken, quand il y a sa fille qui se kidnappait et qu'il lui dit bonne chance et la persévérance qu'il a derrière pour venir retrouver sa fille et retrouver la voix du gars. Et en fait, tout le film est construit là-dessus. Et bon, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais j'aime bien cette persévérance qu'il a eue pour gravir monts et montagnes pour retrouver sa fille.
Trop cool. Quel est ton passe-temps favori?
Oula, j'en ai plusieurs. C'est essentiellement le sport. Hein, là. J'aime beaucoup courir, comme tu le sais. Après, sinon, je suis un grand fan de NBA et un truc un peu, mais j'aime bien regarder les statistiques de NBA. Donc, je peux passer des heures à regarder des tableaux, à voir qui a marqué quoi, la taille des joueurs, tout ça. J'ai ça depuis que je suis gamin et je continue.
Excellent, excellent. Troisième question qui est plus philosophique que celle-là, c'est quand tu seras plus sur Terre, que veux-tu qu'on retienne de toi?
Que j'étais un gars sympa. Non, j'aimerais qu'on retienne que si moi j'ai réussi à accomplir certaines choses tout en restant très humble, hein, je pense que tout le monde est capable de l'accomplir parce que je ne suis pas quelqu'un loin d'être exceptionnel et je pense que quand tu donnes les moyens et quand tu as un petit peu d'audace, eh ben, tu peux vraiment arriver à faire des belles choses ou au moins t'amener quelque part où tu ne pensais pas aller.
De l'audace et du travail aussi, de l'entraînement.
Et du travail, mais ça pour tout le monde.
Cool, 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 cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup au quotidien parce que tu nous as parlé de plusieurs...
Moi, j'exerce sur l'Aveyrune, dans le cabinet du sport, Calab. Et puis après, j'ai fait des coachings prépa physique où on peut me joindre aussi via mon cabinet. Voilà, après, j'ai pas d'endroit spécifique où on peut me joindre. Appelez-moi au cabinet et il n'y a pas de souci.
Trop cool, trop cool. En tout cas, merci beaucoup Thibaut. C'était vraiment un plaisir de te retrouver pour cette émission et de parler de résilience et d'audace sous un angle qu'on n'avait jamais fait. Merci à nos auditeurs, c'est un vrai kiff d'être ici, de vous partager tous ces messages, ces beaux messages. Si vous voulez me suivre, moi, au quotidien, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, LinkedIn, site internet, Dorian Solaire. L'émission s'appelle Osons les difficultés. On revient dans un mois avec un nouvel invité. À bientôt.